Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et merci de nous rejoindre dans le studio de Radio Foot International sur RFI pour évidemment revenir sur cette soirée de Ligue des Champions avec le PSG facile vainqueur de Manchester United hier soir. L'équipe forgée par Thomas Tuchel a dominé les Diables Rouges sur leur pelouse. Une première pour un club français à Old Trafford. Sa victoire est celle d'un esprit d'équipe rare chez les Parisiens, du travail aussi de son entraîneur allemand et de ses individualités offensive. Évidemment, Di Maria et Mbappé se sont distingués. Mbappé surnommé le killer dans la presse anglaise ce matin. Peut-on finalement parler de surprise de la part du PSG ? En face, Manchester United a été dépassé, surcoté sans doute, cette équipe qui n'a pas réagi et a perdu Paul Pogba sur carton rouge. L'équipe et son entraîneur Solskjaer n'ont pas été à la hauteur des récents résultats. Nicolò Zaniolo, le louveteau qui soulève le Stadio Olimpico de Rome hier soir, le jeune espoir de cette Roma et de toute l'Italie, a inscrit un doublé, le plus jeune à le faire en Ligue des Champions, le plus jeune italien. Mais Porto a marqué et la qualification reste très ouverte entre ces deux équipes. Enfin, les enjeux des deux matchs du soir, l'Ajax qui reçoit un Real Madrid expert de la compétition et Tottenham qui jouera contre le Borussia Dortmund. Pour évoquer ces sujets, d'abord nous avons quelqu'un qui nous arrive directement d'Old Trafford, Antoine Grenier, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour tout le monde.
Bon, la nuit a été courte mais vous allez nous raconter l'ambiance qu'il y avait là-bas. Il y a aussi Karine Galli dans ce studio, bonjour Karine.
Bonjour Annie, bonjour à tous. Moi j'arrive directement du sud, c'est bien aussi.
Ouais, il y avait plus de soleil. Hein.
Ouais, il n'y avait pas de Ligue des Champions dans le sud par contre, mais il y avait du soleil.
Il y a la mer, alors ça fait la différence. Bruno Constant, bonjour.
Bonjour Annie.
Bon, vous avez regardé le match j'imagine comme nous tous, un comme Naïm Nob. Moniol aussi, bonjour Naïm.
Salut Annie, salut à tous.
On va en parler de ce match largement. Radio Foot, c'est parti.
C'était génial, le match parfait de bout en bout avec la victoire. Dans les tribunes, on entendait que nous, donc royal.
Et la possession à l'extérieur, en termes de perception, on a été au-dessus de tout le monde. Verratti, merci. Hein.
De retour sur leur ferry boat, ces Parisiens moqueurs qui ont donc chanté « On est chez nous » dans les travées d'Old Trafford. Le théâtre des rêves, évidemment, qui a tourné le rêve au cauchemar, finalement, pour Manchester United, qui n'avait jamais perdu sur sa pelouse face à une équipe française. Et le PSG l'a donc fait. Il a gagné là-bas à Manchester. Voilà pourquoi on dit que le foot n'est pas une science exacte. Mais avant de parler du match, racontez-nous l'ambiance dans le stade finalement, Antoine. On se disait, ouais, les stades anglais, c'est ce qu'on racontait hier dans l'émission. C'est bien au début, après ça s'éteint. Et là, on avait l'impression à travers la télé d'entendre que les Parisiens.
Non, mais c'est bien simple. On était au Parc des Princes hier soir. Donc, quand vous dites que le Paris Saint-Germain a gagné sur la pelouse de Manchester United, c'est pas vrai. C'est Manchester United qui a perdu sur la pelouse du Paris Saint-Germain. Non, les supporters parisiens étaient en nombre. Ils étaient
près de
3500, ouais. Avec 1500 ultras. Ça s'est entendu, ça s'est vu. Et ils ont éteint tout de suite les supporters anglais. L'entrée des joueurs de Manchester a été salué par une bronca, par des sifflets que les applaudissements des supporters de Manchester n'ont même pas compensé. Bref, on était vraiment Paris a joué à domicile hier soir.
Dans une drôle d'ambiance donc. Bruno ?
Je vais faire une petite précision quand même. Il n'y a rien de nouveau dans tout ça. C'est qu'à les stades anglais, et notamment Old Trafford, est réputé pour être très silencieux.
Ouais, c'est très feutré. Ouais.
C'est très feutré, c'est beaucoup de touristes.
C'est devenu très feutré, c'est ça?
Oui.
Mais même en Ligue des Champions, beaucoup de touristes?
Depuis quelques années.
Un mardi
déjà,
soir?
Il y en a qui font le trajet depuis Abu Dhabi juste pour voir le match, hein. C'est terrible.
Depuis la Norvège. J'ai rencontré un certain nombre de Norvégiens qui venaient pour Ole Gunnar Solskjaer.
On dit souvent, parce que moi, le Parc des Princes, je suis pas non plus ébahi par l'ambiance au Parc des Princes, mais c'est surtout que dans tous les stades et beaucoup en Europe, maintenant, les vrais supporters, ce sont ceux qui qui se déplacent, et les meilleures ambiances, ce sont les supporters qui sont les away fans, comme on dit, qui se déplacent et qui supportent leur équipe.
Mmh, ouais, et qui donc font entendre leur voix. En tout cas, hier, on s'était amusé à faire des pronostics en fin d'émission pour savoir quels seraient les scores. Personne n'avait osé parier sur une victoire du Paris Saint-Germain. Personne, sauf David Finzel, mais qui n'était pas dans le studio. Et écoutons cette petite leçon de Kylian Mbappé à la sortie du terrain.
J'ai envie de dire qu'il faut qu'on arrête de vendre la peur. Je pense que les gens doivent arrêter d'avoir peur. Je pense que voilà, le foot, ça se joue sur un terrain. Bien sûr, Neymar est ultra important, Cavani est fondamental. Mais voilà, le foot, ça se joue sur un terrain et on l'a montré aujourd'hui. Donc il faut que les gens nous soutiennent parce que nous, on va soutenir Lyon aussi la semaine prochaine. Il faut que le football français aille le plus loin possible en Coupe d'Europe et ça passe par là. Et il faut arrêter d'avoir peur. On est bon.
La peur sur la ville, non, Kylian Mbappé n'a pas peur et on est bon, a-t-il dit. Peut-on parler de surprise, Naïm, non. De cette victoire du Paris Saint-Germain à Old Trafford ?
Pas du tout.
Vous auriez parié sur
oui,
sur une victoire.
Oui, parce que je vous ai dit la semaine dernière que l'écart s'était resserré, mais que Paris restait favori.
Oui, c'est vrai.
Que l'écart d'effectifs se jaugeait, donc c'était pas une surprise.
Mais entre-temps, il y avait eu tellement de
oui,
disparitions.
Bah, il y a eu des blessures, voilà, il y a eu Cavani, il y a eu Cavani en plus de Neymar, et puis la dynamique de Manchester était bonne. Il faut pas
les
non
rangs
plus
s'éclaircissaient.
Voilà, donc on va dire que ça s'est resserré, mais non, c'est pas une surprise parce que en deuxième mi-temps, quand Paris s'est mis à jouer juste. Techniquement, à mettre de la vitesse dans ses enchaînements. Sur les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps, il y a un tel écart de niveau que ça ne peut pas être une surprise, voilà. Paris a été un petit peu bousculé en début de match. J'ai eu peur quand j'ai vu la vitesse que mettait United sur les côtés avec deux défenseurs avertis rapidement dans le match, mais finalement, Paris a su tenir son rang et ce n'est absolument pas une surprise. Il y a un tel écart de justesse technique et d'efficacité que c'est tout à fait logique.
D'ailleurs, on parle pas d'exploit hein. Ce matin, on remarque bien parce que même si ça pouvait surprendre, mais en tout cas, on s'y attendait pas, Karine.
Moi, je dirais oui et non. En tout cas, je trouve que la déclaration de Mbappé est très juste parce qu'effectivement, il faut pas avoir peur. Mais si il y a des signaux qui parfois nous inquiètent avec le PSG, c'est parce que le PSG nous a donné matière. Alors, il n'était pas là à l'époque de la remontada.
On peut dire qu'il nous a déjà déçu le
oui,
Paris
voilà.
Saint-Germain.
Il n'était pas là à l'époque de la remontada, mais ça fait partie de l'histoire récente du PSG. Et l'an dernier, par contre, quand il y avait soi-disant l'union sacrée pour le match retour face au Real Madrid, où on allait voir ce qu'on allait voir, on n'avait
vu
absolument rien. Et c'était un pchit. Donc.
Et puis c'est son entraîneur quand même qui a pleurniché pendant des semaines en disant qu'il y a un blessé, comment on va faire,
exactement.
On n'a pas de plan B, plan D,
c'est-à-dire
plan C.
C'était
on
nous expliquait en fait que finalement, depuis un mois, il aurait fallu mettre tout le monde dans le formol, alors
et
que Manchester
United, aussi, c'est
voilà,
tout ce qu'on entendait.
Quelques jours avant, avait mis quasiment son équipe sur la pelouse, avait gagné, il n'y avait pas eu de blessé. Donc les torts, ils sont partagés. C'est qu'effectivement, nous, on est inquiets parce que le PSG nous a habitués, mais à côté de ça, il faut aussi faire confiance à ces joueurs. Et hier, je trouve qu'ils ont joué collectivement. Et c'est pour ça que je trouve que c'est quand même une surprise parce qu'il y avait des interrogations. On ne savait pas dans quel état serait Verratti et on ne savait pas si le PSG allait répondre présent. On n'est pas tombé sur un grand en Manchester United, mais moi je retiens d'abord que le PSG a été au rendez-vous et ça n'a pas toujours été le cas en Ligue des Champions, donc bravo à eux. Ils auront des adversaires beaucoup plus durs au tour prochain, s'il y a un tour prochain. Mais en tout cas, ils ont été au rendez-vous et ils ont fait ce qu'on attendait d'eux. Et ça n'a pas toujours été le cas en Ligue des Champions.
Mais ça vous a quand même un peu surprise, donc.
Ben, en tout cas, j'ai été agréablement surprise de voir cette équipe qui joue comme une équipe et qui se met au service du collectif, comme a pu le faire un Marquinhos, comme a pu le faire un Verratti, ou même un Mbappé en s'énervant pas alors qu'il touchait très peu de ballons en première mi-temps, notamment.
Cette victoire vous étonne, Bruno ?
Elle m'étonne pas. Elle m'étonne
dans les statistiques.
La classe
en tout cas,
d'écart
c'est la
entre les deux. Même si on avait tendance à oublier qu'United revenait de loin, qu'ils étaient certes sur une bonne série, mais qu'il y avait beaucoup de matchs remportés face à des équipes très mal classées, et même certaines victoires, notamment à Tottenham, où ils avaient été surclassés par Tottenham et qui ça s'était joué à un joueur à De Gea dans les buts. Après, on oublie que dans ce match-là, il y a aussi des faits de jeu très importants.
On va y venir.
Il y a deux
sûr.
Joueurs qui sortent en blessure.
Bien sûr.
Et quand Naïm disait que la première période, ils étaient en danger sur les côtés parce qu'il y avait Martial et Rashford qui prenaient
exactement.
Les espaces. Et Lingard, pardon, qui prenaient les espaces.
On va y venir sur les détails du match. Quand vous êtes parti à Manchester, Antoine, vous pensiez couvrir une victoire du Paris Saint-Germain ?
Non, absolument pas. En tout cas, je ne suis pas parti dans cet esprit-là, forcément, parce que bon, c'était aussi ma première à Manchester, donc on se laisse un petit peu envahir par cette ambiance un petit peu particulière de Manchester, très, très axée sur cette histoire. Quand on arrive au stade avec cette statue de la Sainte Trinité, avec avec Best et puis les deux autres,
vous les connaissez mieux que moi, Bobby Charlton,
et puis cette horloge du crash de Munich, bref, qui s'est arrêtée depuis 58, bref, non, on s'attendait pas à ce que le Paris Saint-Germain vienne donner tout simplement, comme le dit la presse anglaise ce matin, une leçon,
une leçon de français
au Red Devils.
Et en même temps, on avait la mémoire courte, parce que l'année dernière, Manchester United, ils se sont éliminés en huitième de finale, d'une manière hallucinante face à Séville, où il déjoue complètement à domicile.
On se souvient des buts de...
Oui, mais c'est juste
c'était
le niveau
d'une époque Mourinho, c'est ça, ou c'est qu'on se disait...
On a la mémoire d'autant plus courte, pour rebondir sur ce que disait Karine, c'est que même si techniquement c'était moins bien qu'hier soir, Paris, au match retour contre Liverpool, avait déjà montré qu'il était capable de se mettre au niveau, au rendez-vous, de tenir son rang. C'était peut-être moins juste footballistiquement qu'hier, mais en tout cas, c'est dans la continuité en termes d'état d'esprit, d'attitude, c'est dans la continuité de ce qu'on a vu à Liverpool.
Et justement, vous parlez d'état d'esprit, et Karine parlait d'esprit de groupe qu'on a vu sur le terrain. Eh bien, écoutons Prenel Kimpembe, auteur du premier but, le défenseur, au micro d'Hugo Moissonnier, parce que il explique en fait ce qui a peut-être été le moteur justement de tous ces joueurs hier.
Ce soir, je suis très très content et très très fier d'avoir mis mon premier but, mais je suis encore plus heureux pour la victoire ce soir. On sait qu'on a perdu deux de nos joueurs clés. On a voulu démontrer au monde entier qu'on était aussi capable sans. On a de très grands joueurs et une très grande équipe, et on a su le démontrer ce soir, et on est très heureux pour ça.
Voilà, démontrer qu'on était une grande équipe sans nos stars, c'était ça aussi on a l'impression qu'ils les animaient.
Oui, bien sûr, parce qu'on a tellement entendu, et tout à l'heure quand on parlait de vente de la peur, c'est ça, que en l'absence de Neymar, Paris était nettement moins fort, qu'avec Cavani en plus c'était pas bon, et puis l'absence de Meunier qui est un vrai latéral droit par rapport à Daniel Alves qui est un peu plus expérimenté de Thilo Kehrer, donc il y a eu tout un contexte qui faisait que, et collectivement le club a tenu son rang. Alors moi je suis pas surpris de Di Maria, parce que Di Maria, on a un peu tendance à oublier qu'il fait une très bonne année 2019, qu'il est toujours dans les 4 de devant, mais alors
même,
moi c'est surtout
même fin 2018 il était
décisif dans les matchs, oui d'ailleurs il a même été décisif tout le temps, Ligue des Champions contre Naples et tout, mais moi c'est surtout la paire Marquinhos Verratti qui m'a ébloui, absolument ébloui. Le niveau physique de Verratti, tout le monde pensait qu'il sortirait au bout de 60 minutes, il a tenu plus, il a vraiment été très bon, très important. Marquinhos, un monstre, pour moi le meilleur parisien hier, qui n'est pas numéro 6 de métier, qui est absolument tout ratissé, qui, selon les périodes de possession, jouait même quasiment comme un 10 derrière les attaquants, j'ai trouvé extraordinaire. Donc voilà, c'est vraiment été une vraie victoire collective, avec des joueurs qui se mettent au diapason les uns pour les autres.
Quand on repense au scénario de ce match, donc on arrive à la mi-temps 0-0, les équipes, on va dire, se sont bien observées pendant le premier round, mais vous avez raison de le souligner, et on en parlait quand on préparait l'émission, Bruno, c'est quand même ces deux joueurs qui sont remplacés en fin de première mi-temps, et pas n'importe lesquels, c'est Lingard et c'est Martial.
Ouais, c'est deux joueurs.
Les deux blessés, les deux joueurs... pas des changements de choix de l'entraîneur.
Un entraîneur, quand il a deux joueurs à remplacer sur blessure à la pause, ça change tous ses plans.
Exactement.
Déjà, ça change tous ses plans. Ça change le profil des joueurs rentrants. Parce que Alexis Sanchez et Mata, c'est pas des joueurs de vitesse, de profondeur. Donc ça change le profil de son équipe. Et en plus, ça lui enlève des cartouches pour réagir en fin de match s'il est mené, etc. Ce qui s'est passé en plus. Donc ça fait beaucoup de manque. Et surtout, la force de United qu'on a vu avec Solskjaer, c'était ces deux joueurs excentrés qui prennent la profondeur, qui apportent de la vitesse, avec un Pogba qui se sert de cette profondeur pour ajuster les passes et les caviars.
Et qui disparaissent.
Et ils ont perdu tout ça d'un coup, et c'est compliqué
ça
de réagir.
Ça peut aussi expliquer une deuxième mi-temps complètement différente.
Bien sûr.
L'idée de faire rentrer Sanchez et Mata pour avoir un peu plus le ballon, faire monter le bloc, c'est pas une mauvaise idée. Là où ils ont été pas bons et là où ils ont complètement déjoué Manchester, c'est que à partir du moment où ils ont pris le premier but, ce qui évidemment les désavantages, mais ce qui n'est pas rédhibitoire quand il reste quasiment 40 minutes et que vous avez pas mal de beaux joueurs, c'est que dès qu'ils avaient récupéré le ballon, ils envoyaient tout sur Rashford, qui était le seul joueur maintenant capable de donner de la profondeur, qui était seul contre trois, parce que Bruno l'a dit, Sanchez et Mata, c'est pas les types qui vont répéter les courses. Donc c'est là où ils se sont trompés, sur le coaching de Solskjaer. Faire sortir Rashford pour faire rentrer Lukaku, pas très intelligent, parce que vous avez peut-être besoin de deux points de fixation devant pour essayer de garder plus le ballon. Vous en sortez un pour en faire rentrer un.
Je me demande s'il avait pas en tête déjà le calendrier qui arrivait.
C'est possible. Oui, c'est fort possible.
Mais c'est surprenant. Quand t'es mené 2-0,
j'aurais sorti Herrera, mais bon. Ouais.
Antoine,
c'est aussi ces deux blessures, c'est aussi la conséquence d'une première mi-temps où les équipes se sont pas économisées l'une et l'autre. On s'est rentré dedans.
Beaucoup de
cartons. Il y a eu 5 cartons en tout juste dans cette première période.
Le match facile quand même, hein, de la part de la Russie.
Non mais franchement, au stade, les contacts étaient durs, vraiment très très durs. On a senti deux équipes qui avaient envie d'impressionner, qui avaient envie d'impressionner l'adversaire
dangereux. Il y a pas eu de geste. Il y a un match d'homme.
Si, quand même, le match Young sur Di Maria.
Young sur Di Maria, c'est de l'épaule. Je comprends
pas. C'est juste que le terrain il fait comme ça.
Oui, enfin, il le sait, Young, que le terrain il fait comme ça, justement, et qu'il va tomber et qu'il va et il l'envoie dans le.
Non mais on n'a pas cherché à économiser l'adversaire.
Manchester United, tu sais, ils sont pas idiots. Même malgré leurs résultats, ils sont bien au courant qu'en face techniquement les mecs sont beaucoup plus forts et que le seul moyen que tu vois de les déborder en plus à domicile, c'est de mettre de l'intensité, de la pression, d'aller les presser haut et de jouer sur tes atouts, la vitesse, l'explosivité. C'est aussi pour ça que les mecs ils ont tout donné tout de suite.
Et ça montre aussi que cette palette du jeu, le Paris Saint-Germain peut l'avoir dans son jeu, ce qui n'est pas tellement le cas en Ligue 1 où il domine de toute façon de la tête et des épaules.
C'est un peu nouveau.
Et après le match contre Strasbourg, vous pouvez penser qu'ils étaient un peu délicats, ces Parisiens, que. Non, ils ont montré qu'ils pourront répondre à l'impact physique si jamais l'adversaire joue là-dessus.
Le match à Anfield, le match aller contre Liverpool Anfield, il s'était fait bouger dans tous les sens. Et on parlait du manque de caractère de cette équipe. On a vu Marquinhos qui avait joué en 6 lors de ce match. Il avait été catastrophique. Et là, on voit un peu, je trouve, l'évolution et le caractère de Tourelle qui est en train de mettre sa patte depuis 6 mois et de révéler des talents à des postes qu'on n'attendait pas, comme Marquinhos.
Moi, je trouve que c'est. Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais je trouve que c'est quand même un petit peu trop tôt pour dire finalement. On est sûr que ça passe. C'est-à-dire que ce que tu parles en termes de pressing, quand il y a eu un énorme pressing de la part de Liverpool ou de Naples, les Parisiens étaient en très grande difficulté. Et hier, le pressing n'a pas duré assez longtemps et n'a pas été assez intensif.
Hein. Oui, c'était en septembre.
Mais sauf que
là, on est en février.
Quand tu fais match nul avec la frappe de Di Maria à la dernière seconde, dans le contenu, t'es quand même en grande difficulté. Et c'était pas au mois de septembre. C'était
septembre, c'est octobre. C'est les deux premiers matchs.
Et après, en décembre, tu vois quand même que cette équipe, si elle a affaire à un milieu de terrain qui est extrêmement bon, qui est extrêmement pressant, tu n'as pas encore d'assurance. Pour moi, ce qu'on a vu hier, c'est validé par rapport au match, c'est pas validé pour la suite par rapport à un milieu de terrain qui est plus fort.
Je suis bien d'accord. On ne dit pas qu'ils vont gagner avec des champions.
Non,
on dit juste qu'ils ont montré
du caractère. Bien d'accord sur quelque chose, Karine. C'est vrai que ce que tu dis, que le pressing Paris peut être en difficulté, mais ce qu'on a vu hier, ce qu'on ne voyait pas pendant la phase de poule, c'est que pendant la phase de pressing, quand Paris ressortait la balle, c'est allé extrêmement vite devant le but de l'adversaire sur deux touches de balle, Marquinhos vers Verratti, t'arrivais très rapidement dans les 30 mètres adverses, en plus avec Draxler qui décrochait bien, qui n'a pas tout fait justement lui techniquement, elle n'a pas toujours été très juste, mais qui amenait justement un surnombre au milieu. Ça, c'était une première aussi à Paris.
Avant qu'on parle du travail de Tuchel, juste une question, je vais vous la poser Karine, c'est Antoine, Pogba qui prend finalement ce carton jaune, alors certes un peu cachette facile, mais après ce deuxième carton qui l'exclut du match à quelques secondes de la fin, est-ce que ça montrait pas aussi la nervosité, toute la, finalement la rage de ces joueurs de Manchester qui finalement témoignait du fait qu'il se sentait impuissant.
Oui, enfin moi ce qui me gêne dans le match de Pogba hier, c'est qu'il est pas au service de l'équipe, c'est-à-dire qu'il se retrouve avec un Marquinhos qui le colle comme une sangsue. Mm-hmm. Marquinhos c'est exactement l'exemple du joueur qui est au service de l'équipe et Pogba l'a pas été et il en dit cap mais grandement son équipe sur le match de hier et surtout sur le match retour. Et le problème c'est que Pogba quand c'est facile, quand il peut faire ce qu'il veut, quand il a une liberté totale face à des équipes qui sont moins bien armées, c'est très bien. Lorsqu'il doit être au diapason de l'équipe et qui doit travailler pour l'équipe et pas être Pogba et les autres autour de lui, ça coince. Et moi, je serais supporter de Manchester United ou je serais Solskjaer, je serais fou de rage par rapport à la prestation qu'il fait, par rapport au fait qu'il abandonne ses coéquipiers.
C'est une réaction de frustration de Pogba, parce que depuis l'arrivée de Solskjaer, c'est le joueur le plus décisif d'Europe.
Et oui.
Tout poste confondu, 8 buts, 5 passes décisives en 13 matchs, il est plus fort, que marque plus de buts et fait plus de passes décisives que Salah, qu'Aguero, que Cavani. Et hier, il est tellement bien muselé, il est tellement inutile et inefficace que c'est une réaction de colère, en fait.
Mais alors, de colère, moi, je suis pas tout à fait d'accord. Je suis même pas d'accord du tout. C'est qu'à un moment donné, il y a un autre joueur qui veut t'expulser avant, qui est décisif dans ce match, c'est Kimpembe.
Mais l'un n'empêche pas l'autre.
Non, mais peu importe. À un moment donné, l'arbitrage.
Mais c'est pas pour ça que Pogba va prendre un carton rouge.
Ben on n'en sait rien. Ça change tout le match. Kimpembe, c'est lui qui ouvre le score. Il fait 3 grosses fautes qui méritent les 3 un carton jaune. Il en prend 15 sur les 3. Du côté du United, alors peut-être c'est le côté anglais.
Je suis d'accord.
Mais du côté du United, on dit attendez, l'arbitrage, et il y a eu Gary Lineker qui était sur le plateau avec d'autres anciens joueurs qui disaient mais on comprend pas pourquoi Kimpembe est pas expulsé et Pogba est expulsé.
Oui, mais ça veut pas dire.
D'accord, mais sauf que c'est pas
pour ça. L'exclusion, de Pogba a lieu quand, Bruno?
À la 89e.
89e. Oui, mais sur les 89 minutes où il est sur le terrain, il fait quoi?
Ah si 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 si.
Ah
si si.
87, 89e.
89e.
Ça empêche pas. Excuse-moi, mais sur les 89 premières minutes avant l'exclusion, il fait quoi qui footballistiquement justifie son niveau?
Ça explique le mauvais match de Pogba.
Je dis, très bien.
Je dis juste que
carton jaune de Kimpembe.
Je dis juste que c'est pas la frustration de l'équipe de Manchester United, parce qu'il y a eu des fautes de Paris, beaucoup de grosses fautes, et Kimpembe doit sortir.
Mais la frustration de Pogba d'avoir été absolument inabouti face à Marquinhos, qui aussi le met dans cette colère-là.
Il a une occasion individuelle où il prend de vitesse la défense parisienne en poussant très loin le ballon, et il frappe et Buffon et bouge bien son angle. Mais c'est sûr que hier soir, tout simplement, le Paris Saint-Germain a parfaitement géré le cas Pogba, que ce soit au plan technique que au plan mental, tout simplement.
Alors la victoire d'un groupe, et donc d'abord on avait envie de dire bravo à Thomas Tuchel, l'entraîneur, on le disait tout à l'heure, qui peut-être réussit à apprendre aussi des expériences, et notamment de celle dans le field face à Liverpool. Écoutons deux des joueurs de l'équipe du Paris Saint-Germain qui ont remercié leur entraîneur, Marquinhos et Mbappé.
J'ai tout pour remercier le coach. Comme j'ai dit toutes mes interviews, il a fait beaucoup de confiance sur mon talent, sur mon caractère, sur ma personnalité de joueur. Et il a vu des choses sur moi que je voyais pas. Et bon, aujourd'hui, j'essaye de grandir de plus en plus. Et c'est ce genre de match qui va me faire grandir encore plus. Et voilà, je me mets disponible pour l'équipe, pour faire les efforts qu'il faut.
Il m'a dit que voilà, ça allait être différent de d'habitude. Que peut-être que j'allais toucher beaucoup moins de ballons que d'habitude, qu'il fallait pas que je décroche trop, parce que j'étais le seul joueur qui pouvait apporter de la profondeur. Et voilà, je l'ai écouté. Après, c'est un peu difficile parce que c'est nouveau. Voilà, j'apprends à ce poste. Mais voilà, je marque un but, on gagne 2-0, donc c'est bien.
Naïm, Tuchel qui disait finalement à l'extérieur et donc pour nous, pour la presse dans ses conférences, bon là là, j'ai plus mes joueurs, j'ai peur et ça va être compliqué, mais qui préparait bien son groupe et surtout à travailler en groupe sans ses stars, donc à être solidaire.
Bah d'abord, il a axé sur la solidarité, sur le travail les uns pour les autres, et puis aussi le fait de mettre Daniel Alves sur le côté droit, sur cette aile droite, qui est pas une première. Tuchel l'avait déjà fait un petit peu plus tôt dans la saison quand il est revenu. Et puis le fait, voilà, de mettre Verratti, Marquinhos, de demander à Mbappé d'être un peu plus devant pour amener de la profondeur, bah parce que forcément, sans Neymar et Cavani, c'était le seul attaquant vraiment de métier. On sait que Di Maria aime beaucoup aussi revenir dans l'axe parce qu'il aime beaucoup toucher le ballon. Donc voilà, c'était très bien vu. C'est très bien vu de la part de Tuchel tout ce qu'il fait.
C'est un bon travail de cet entraîneur.
Oui, c'est un très bon travail. On a pu critiquer certains choix, notamment de mettre Marquinhos en 6 en début de saison. On peut critiquer sa communication. C'est vrai que Bruno a raison. Un entraîneur qui se plaint, j'ai pas de joueur, j'ai pas ceci, j'ai pas cela, ça peut irriter. Mais il a très bien préparé son groupe, d'ailleurs, depuis la qualification et depuis le début de l'année 2019. Tout est axé en vue de ce match. Mmh. Et force est de constater que sur la première manche, il a raison.
Il a un peu passé un premier test d'une manière concluante, Karine ?
Oui, bah après, il avait eu quand même aussi des résultats avec Dortmund en Ligue des Champions. Là où... pour moi, il y a toujours des points d'interrogation. C'est que je persiste et je signe. Je pense pas que Daniel Alves, ça soit une bonne idée. C'est-à-dire que hier, ok, ça passe, c'est très bien. Et tout ce qu'ils ont mis en place, c'est passé face à une adversité qui, pour moi, n'est pas top niveau. Et Daniel Alves, il va être confronté, s'il est toujours titularisé.
Voilà, c'est ça.
Non, mais voilà.
Il fait avec ce qu'il a, aussi, tout
mais il y avait d'autres options hier. Il y avait aussi d'autres options. Potentiellement, je veux dire, c'est toujours la même histoire. Là, on a que du positif parce que c'est passé, mais Daniel Alves, moi, avant le match, je ne l'aurais pas mis. Après le match, je le mets toujours pas, parce que l'adversité, elle était quand même extrêmement faible. Parce que si Daniel Alves, il avait été pressé comme jamais, eh ben, il aurait sûrement explosé, parce qu'il a explosé 3 jours avant et 1 semaine avant face à Lyon. Et t'as quand même pris toujours un Paredes pour la Ligue des Champions, que finalement tu savais très bien qu'il serait pas apte à être à 100%.
Paredes, s'il est pas titulaire, c'est parce que initialement Tuchel compte sur lui pour remplacer Verratti. C'était que si tu mets Paredes et Verratti au coup d'envoi, tu mets qui quand Verratti il est cramé? Et puis il faut sortir.
Et puis personne. Et si Paredes peut pas faire non plus tout le match, qui est un
évidemment,
peu.
Évidemment,
oui, en plus, parce que c'est vrai, des choix qui sont dictés.
Non, mais c'est des choix de moment. Mais un entraîneur, il fait pas des choix pour dans 2 mois. Il fait des choix pour le moment.
Je suis d'accord avec ce que tu dis sur Daniel Alves. Mais Daniel Alves, déjà, le fait de mettre un type qui sait défendre devant Kerrer face à un couloir où ça va aller très vite déjà à Saint-Étienne, et t'as aussi besoin d'un type qui est peut-être pas dans la forme de sa vie, mais qui est tellement pourri d'expérience.
Voilà,
pourri
de vie.
Méchant au sens intelligent du terme. D'ailleurs, l'avoir sur un terrain, c'est presque un
tous les matchs de Ligue des Champions. Tuchel, hein. Il est titulaire parce que c'est l'expérience.
Il est à 110 matchs.
L'an dernier, il a aussi pris le bouillon face au Real Madrid comme d'autres parce qu'il avait plus les cannes.
Comme
d'autres. Oui, mais voilà.
Bien sûr.
Oui, mais il a su se gérer et il a su apporter ce qu'il fallait apporter à un Paris Saint-Germain qui était en termes de nombre de matchs joués en Ligue des Champions, qui en avait beaucoup plus que cette équipe.
Quand tu vois les joueurs que
tu as
dans l'équipe, Daniel Alves, tu ne peux plus l'utiliser que comme ça, à l'expérience et pour pourrir un peu le match, quoi.
Après, il y a un joueur qui change quand même tout le PSG, c'est quand même Verratti. Mmh. Je suis désolé. On parle du pressing, une équipe sous pressing, mais quand même, c'est quand même l'un des rares joueurs en Europe qui est capable de désamorcer tout le pressing avec sa, son calme, sa lucidité, il fait les bons choix.
Sans
il
prendre a... de carton.
Sans prendre de carton en plus.
Ce qui a surpris hier, parce qu'en plus, il fallait pas.
Sa première touche.
Et ça soulage énormément. Hein.
Quand première touche, ça, la manière dont il ressort le ballon.
Très bon choix.
C'est extraordinaire.
Alors, André Di Maria, évidemment, a été aussi hier à la hauteur de ce qu'on attendait. C'est lui qui fait deux passes décisives. Certes, il ne marque pas, mais il fait un très bon match. Et puis, Antoine, il y a le kiki. Le kiki Deschamps, Kylian Mbappé, le joueur de la Coupe du Monde. Ces deux d'ailleurs champions du monde hein, qui ont marqué hier quand même, c'est à noter. Devenu eh bien,
Plus que l'autre quand même.
Le killer, bah en tout cas les deux étaient dans le groupe, Karine, n'est-ce
oui,
pas
oui, quand t'es champion du monde, il y a plus ou moins d'importance dans
plus ou moins,
sacre.
Oui. Mais il y en a un qui faisait l'ambiance et l'autre qui faisait l'ambiance sur le terrain. Le killer, hein, ce matin, la presse anglaise se délectait en parlant de killer.
Oui, puis c'est mérité parce que finalement, en absence de Cavani et Neymar, avec lesquels il a l'habitude de jouer, hein, c'était la première fois qu'il jouait sans l'un et l'autre. Il a montré à nouveau que c'est dans l'équipe, on parlait de son QI football, cette capacité à s'adapter en permanence aux situations, c'est-à-dire que on l'a entendu tout à l'heure dire que Tourelle lui avait demandé de pas trop décrocher, il l'a fait quand même, mais il l'a fait toujours à bon escient pour aller récupérer des ballons, accélérer un peu le jeu et puis aller se replacer. Solskjaer lui-même a rendu hommage à Kylian Mbappé.
Eh ben justement, on va l'entendre cet entraîneur de Manchester United, parce que en Angleterre, donc all the people a vu le killer Kylian Mbappé.
Le deuxième but a mis en évidence toutes leurs qualités. Regardez Kylian Mbappé, ce garçon qui traverse le terrain pour arriver dans notre surface. Beaucoup d'attaquants peuvent apprendre de ce qu'il a fait. Voilà comment on se place dans une surface. Ça permet de marquer 5-6 buts en plus par saison. J'ai dit à mes attaquants que c'est ce qu'ils devaient faire.
Antoine, si on ne s'attendait pas à ce scénario, en tout cas, on savait que Kylian Mbappé aurait une certaine pression sur lui parce qu'il était le survivant de la MCN.
Oui, puis on savait que la pression, c'est quelque chose qu'il apprécie et qu'il apprécie aussi les équipes anglaises. Hein parce qu'il s'était révélé devant l'autre Manchester contre City en Ligue des Champions alors qu'il jouait à Monaco.
C'est pas nouveau finalement. C'est toujours bluffant, mais c'est pas nouveau. Il
hier,
a fait
hier le deuxième but de Paris, donc le but de Mbappé, qui est son 14e autant qu'un certain Zinedine Zidane, c'est que du placement. La passe de Di Maria est absolument parfaite, mais Kylian Mbappé, entre les deux défenseurs, il n'y a rien à dire.
C'est surtout de la vitesse. Hein. Parce qu'ils ont c'était sur BT Sport chez les Anglais, ils ont montré l'accélération. C'est phénoménal. Il y avait Rio Ferdinand, ancien défenseur des Red Devils, qui était là, qui dit mais il va à une vitesse.
Il arrive à allier les deux. Il arrive à allier la vitesse
disait,
et le placement.
Il disait mais Lindelof est à côté de lui, mais Lindelof peut rien faire. Il dit ça va trop vite, ça va beaucoup trop vite.
Et puis faut voir un truc, c'est que Kylian Mbappé, c'est peut-être celui qui a pas vraiment assumé son statut en phase de poule. Il a pas fait une bonne phase de poule. Kylian Mbappé, disons-le clairement, il a marqué contre Belgrade, il a mis des buts, mais contre Naples, Liverpool, sincèrement, c'est lui qui perd le ballon du 3-2 au match aller. Enfin, il fait pas une belle phase de poule.
Mais là, il a aussi raté des choses. Hein.
Bien sûr, mais après, les attaquants peuvent pas tout réussir tout le temps. Mais c'est vrai que
il a assumé la responsabilité de l'avancement.
Oui, parce qu'on a entendu beaucoup de gens dire oui, faut pas qu'il se prenne pour Neymar. Faut pas qu'il se prenne pour Neymar. Mais quand on a parlé de vous très longtemps pour le Ballon d'Or, que vous êtes champion du monde, que vous coûtez 180 millions, faut quand même qu'à un moment donné, vous avez des attentes sur vous. Faut les assumer et les assumer hier.
Oui, et Karine. Ce qui est intéressant aussi, moi je trouve, dans son match hier, c'est qu'en première mi-temps, il est sevré de ballons, il reçoit très peu de ballons, et finalement, il sort pas de son match. Ça aurait pu être beaucoup plus compliqué parce que il avait quand même ce statut de sauveur, il devait être le sauveur. En première mi-temps, il a pas de ballon, il a pas d'opportunité d'aller délivrer le PSG, il sort pas du tout de son match, il ne s'énerve pas, ça lui arrive parfois. Et en deuxième mi-temps, effectivement, il est plus à provisionner et il consolide cette victoire. Donc voilà, sur la progression qu'il y a dans ce match et comment il a géré ce match, je trouve que c'est très fort. Et en plus, ce qu'il dit derrière, juste après avoir gagné, il a totalement raison. Ouais. C'est un joueur qui t'enlève la peur et qui, malgré son jeune âge, 20 ans, il te dit non, c'est possible, on peut le faire, etc.
On est bon.
Ouais. Après, il y a encore une marge de progression parce que le duel évidemment qu'il rate contre Derrea.
C'est son péché mignon.
Avec quelques années de plus, il le met et le match est déjà terminé.
Au moment de l'action, je me suis dit, celle-là, c'est Cavani, c'est dedans parce qu'il faut la jouer une touche. C'est exactement ce que je me suis dit. Celle-là, c'est Cavani, c'est mouche. Mais il a 20 ans, faut qu'il apprenne.
Enfin, Cavani nous a habitués aussi à des face-à-face avec des gardiens qu'il n'a pas gagné.
Oui, c'est vrai.
Manchester United, une équipe donc qui, on avait l'impression, Bruno, n'est-ce pas, en vous écoutant notamment, qu'elle renaissait cette équipe sous la direction du Norvégien. Non, non, mais elle renaissait en Première Ligue, bien sûr, dans l'ensemble, depuis le 20 décembre dernier.
Je veux bien assumer les critiques des supporters de United qui disent que je suis trop dur, mais si après, derrière, on dit que je suis trop gentil.
Non, mais bon, de toute façon, il y avait un fait, c'était 10 matchs, 11 matchs sans perdre.
Sans
défaite et 10 victoires. L'esprit mancunien, en tout cas, devra être mobilisé pour le match retour. C'est ce qu'a dit l'entraîneur, donc Ole Gunnar Solskjaer.
C'était un match équilibré. On ne doit pas concéder le premier but. Le deuxième, c'est grâce à leur qualité. On était sur une bonne série, mais voilà, le PSG, c'est la marche au-dessus. C'est le niveau que l'on veut atteindre. Manchester United veut être au top. On est déçus, mais on doit progresser. Il faut être honnête, ils nous ont été supérieurs, mais ce n'est pas encore perdu. Dans ce club, il faut rebondir. Dans le vestiaire, les gars étaient déçus, mais il y avait de la détermination. C'est une grande montagne à gravir, mais nous sommes Manchester United, nous rebondissons toujours.
Bruno, est-ce qu'on les a quand même vus plus beaux qu'ils n'étaient, ces joueurs de Manchester United, justement parce qu'on était quand même, ils ont fait une bonne fin d'année depuis que Mourinho est parti, ils sont remis donc à jouer d'une façon peut-être plus libérée, à marquer des buts, à en encaisser peu. Alors certes, c'était pas contre le Paris Saint-Germain, c'était contre d'autres équipes, mais est-ce qu'on les a vus trop beaux quand même? On s'est laissé un peu berner.
Disons que
peut-être pas vous.
Non, mais entre le moment, entre le moment du tirage et le moment du match aller, il y a eu plein d'événements contraires dans un club comme dans l'autre et qui ont rapproché en fait la
pression qu'on a eue parce que hier sur la
cote des deux équipes. C'est-à-dire qu'avant on était peut-être à 70-30 et puis on s'est rapproché vers du 60-40. Mais en Angleterre, il considérait toujours le PSG favori. Solskjaer disait toujours le PSG favori.
Mais
on avait d'un côté, on avait un club qui jouait les pleurnicheuses parce qu'ils avaient des stars qui étaient absentes, alors qu'ils avaient encore plein de stars. Quand on regarde l'effectif, qu'on a Thiago Silva, qu'on a Marquinhos, qu'on a Verratti, qu'on a Mbappé, qu'on a Di Maria, à United, certes, il y a des progrès, mais on sait aussi qu'il y a d'énormes lacunes dans cette équipe, et notamment la défense. Son gardien, qui est un gardien fantastique, on dit toujours le meilleur gardien du monde, mais quand vous avez un corner ou un coup franc, un corner ou un coup franc qui atterrit dans votre zone des 5-50, au sol, parce que Kimpembe fait une reprise du pied, que le gardien ne bouge pas, ne sort pas, c'est une faute monumentale. Il y a eu plein d'erreurs individuelles à United qui fait que ça montre qu'il y a encore des défauts, il y a encore des carences, et ils le savent.
Les coups de pied arrêtés défensifs à Manchester United, c'est leur plus gros point faible. Je crois que depuis l'arrivée de Solskjaer, ils ont dû prendre peut-être 3 ou 4 buts comme ça et concéder le double d'occasion aussi avec Mourinho, bien sûr. Ouais. Après, certains les ont peut-être vus trop beaux, tant pis pour eux. Il y a eu des matchs gagnés face à des équipes qui certes n'étaient pas très fortes, mais ces équipes-là, sous Mourinho, Manchester les battait pas non plus. Donc on peut aussi, faut quand même mettre à leur crédit un certain état d'esprit.
Et ramé à la fin du Big Six, ils avaient du mal.
Pogba est un joueur qui est le plus décisif d'Europe aujourd'hui. C'était pas le cas sous Mourinho. Martial met des buts, Rashford remet des buts. Il y a eu des choix forts de fait. Lindelof, alors hier c'est pas un bon exemple parce qu'il est complètement mangé, mais Lindelof et globalement la défense de Manchester dans le jeu a quand même montré plus de choses sous Solskjaer que sous Mourinho. Donc il y avait aussi des arguments. Le problème, c'est qu'à un moment
avant ça.
À un moment donné, il faut être bon dans les grands matchs. On peut être bon sur 15-16 matchs. Si vous êtes bon, ça se voit, il faut le dire.
Et puis à un moment, on est influencé aussi par la parole de certains. Il y a eu une interview de Claude Puel dans la presse française qui disait que c'était impossible de faire une individuelle. Je vais pas les critiquer, ceux qui ont fait l'article. Mais s'ils avaient suivi un peu United, ils avaient vu qu'il y avait quelques semaines avant, il y a un match Tottenham-Manchester United, qui a un joueur français en plus. Français, Moussa Sissoko. Donc on aurait pu le suivre, qui a fait une individuelle sur Pogba. Pogba n'a pas touché un ballon pendant 43 minutes.
Et d'ailleurs, c'était moins bon
et ensuite, il sort sur blessure. Sissoko sort sur blessure. Sissoko sort sur blessure. Et dans la foulée, qu'est-ce qui se passe? Pogba est libre, il est décisif sur le but, sur le premier but.
Je vais juste citer Thiago Silva qui disait que Marquinhos, c'était pas au marquage individuel sur Pogba. C'était un marquage de zone. Mais la zone de Marquinhos, c'était la même que celle de Paul Pogba.
Voilà.
C'est une manière de.
Bon, en tout cas, ce match retour aura lieu donc au Parc des Princes le 6 mars prochain. Et cette équipe de Manchester United, eh bien, viendra, on peut dire, avec un handicap 3, pas de Pogba et deux buts en moins. Enfin, ou deux buts à rattraper, oui.
Bah, en même temps, c'est dans la défaite qu'on apprend. Solskjaer, il va certainement essayer d'apprendre un petit peu de, de cette défaite-là. Qui est, c'est pas sa première en tant qu'entraîneur, hein, parce que ses passages à Cardiff et même à Molde en Norvège n'avaient pas été forcément extrêmement flamboyants. Il a juste eu un départ canon. Là, il y a un petit coup d'arrêt pour lui avec Manchester. Avec la culture club qu'il a, il en a connu des défaites.
Dans l'histoire, c'est vrai qu'il y a aussi une remontada dans l'histoire du Paris Saint-Germain, donc ils sont méfiants, mais c'était pas au Parc des Princes. Mais j'ai une dernière question avant qu'on aille vers l'Italie. Finalement, le match Ligue 1, Première Ligue, Bruno, c'est la Ligue 1 qui s'en sort haut la main. Mbappé nous disait faut pas avoir peur. 5 matchs pour l'instant, 3 victoires. Le PSG là donc à Manchester et puis Lyon à Manchester City et
Liverpool
et puis on a un match nul, c'est Lyon Manchester City, et on a une défaite, c'était celle du Paris Saint-Germain à Liverpool.
Et donc vous allez me rappeler les deux clubs anglais qui ont été en finale d'une Coupe d'Europe, date de
de cette année,
l'année dernière, voilà, avec Liverpool, et l'année d'avant Europa League avec Manchester United, alors que les clubs français, Ligue des Champions, ils ne dépassent pas
de la Ligue Europa.
Le PSG ne dépasse toujours pas les quarts de finale. Et
bon, vous voulez pas donc dire que la première
année. si on regarde sur cette année, mais si on regarde sur les trois dernières années, c'est pas le cas. Ou les quatre, cinq dernières années, c'est pas le cas.
Bon, je m'attendais pas que vous disiez ça finalement. Mais hier, Philippe Doucet nous dit que de toute façon, le meilleur championnat, c'est la Liga, donc largement devant la première ligue.
Ah, oui, bon, là,
c'est une autre dimension. Antoine Grenier, merci beaucoup.
Merci,
parce qu'on va
merci
parler
à tout le monde.
De la Roma, vous aviez pas un petit écran de contrôle pour regarder la Roma en même temps.
Non, mais j'aime beaucoup ce petit joueur italien, il me plaît bien. J'espère que vous en direz du bien. Non, mais je vous écouterai en dire du bien.
Il y a Matteo, merci. Il y a Matteo justement qui nous attend.
Diego, scarica la conclusione, palo incredibile, gol, 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 ancora lui, incredibile, doppietta marzaniale, errore sanguinoso, 2-0 Roma, ancora Nicolò, è un sogno marzaniale, è un sogno paralimpico, 2-0 per noi.
L'Italie donc avec ce jeune homme dont on entend les commentaires absolument passionnés de notre confrère italien. Alors, il parlait de ce jeune homme qui n'a que 19 ans, ce buteur, mais qui soulève déjà les tribunes du Stadio Olimpico, Nicolò Zaniolo, qui a inscrit hier un doublé, les deux buts de la Roma face à Porto, et il est donc devenu le plus jeune italien auteur d'un doublé en Ligue des Champions. Alors, après on y reviendra, il y a quand même eu un but encaissé de la part de la Roma et ça va peut-être hypothéquer la qualification. En tout cas, Matteo, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour tout le monde.
Matteo, Nicolò Zaniolo, aujourd'hui, la presse n'en a que pour lui.
Oui, ça faisait pas mal de temps qu'on n'assistait pas à une réaction aussi positive de la presse vers un seul joueur italien, en plus très jeune. Et il suffit de lire ce matin les journaux pour confirmer ce fait, des titres flamboyants sur Nicolò Zaniolo. Le Corriere dello Sport, par exemple, a écrit sur sa première page en gros una favola, c'est-à-dire un conte de fées. Et puis, si on lisait les articles, on a vu Gladiateur, Petit Prince, guerrier, empereur, parce qu'on est à Rome, donc on s'est vraiment laissé aller là. Et la Gazzetta, de sa part, a touché plutôt l'aspect économique et pas seulement sportif. Mmh. Le journal de Milan a créé ce nom Zaniolo, ce joueur vaut déjà de l'or. La Rome l'a payé seulement 4,5 millions et le joueur est entré dans l'affaire qui a conduit Raja Nainggolan à l'Inter. Vous comprenez bien pourquoi en ce moment les tifosi de l'Inter sont très fâchés avec les dirigeants de leur club qui à leur tour sont en train de se demander qu'est-ce qui leur a passé par la tête quand ils l'ont fait filer. Mm-hmm. Et tout le contraire des dirigeants de la Roma qui se frottent les mains.
Hein. Oui, évidemment. Vous pourrez rajouter dans votre collection de surnoms Louveteau, parce que évidemment les petits de la louve en France, on appelle ça les louveteaux, et donc c'est un petit loup qui
Qui moi j'adore Zagnolotti hein.
Zagn... Je vous le dis. Et oui parce que évidemment on lui trouve aussi beaucoup de ressemblances avec avec des antécesseurs et notamment avec Totti, c'est ça?
Oui. Il faut savoir que c'est un joueur polyvalent qui peut revêtir un nombreux postes sur le terrain, avant-centre, ailier droit,
milieu offensif surtout.
Ouais. Et à la Rome, on le voit faire un mix de tout cela, car il joue et bouge beaucoup sans avoir le ballon à ses pieds. C'est aussi pour cette raison qu'il arrive souvent à confondre la défense adversaire. En plus, il est très costaud, 1m90 pour 80 kilos. Et bon, vous voyez, c'est un grand gabarit.
Et c'est surtout, Mancini était dans les tribunes hier, Matteo, c'est l'espoir aussi sur lui pour ce qui est de la renaissance de l'équipe italienne, de la nazionale, j'imagine.
Oui, en effet, il faut savoir que Roberto Mancini a été le premier à miser sur ce joueur, car il l'avait convoqué pour le premier match de la Ligue des Nations face à la Pologne, et c'était en septembre, et Zaniolo à ce moment n'avait joué même pas une seconde en Serie A. Il arrivait directement de la Primavera dell'Inter, donc il connaissait absolument pas le grand football. Mais Mancini a tout de suite cru en lui et il l'a convoqué. La même chose, Eusebio Di Francesco, qui quelques jours après le match de la Nazionale, à son tour, l'a convoqué, l'a fait jouer titulaire dans un match pas comme les autres, c'est-à-dire le premier match de la Ligue des Champions face au Real de Madrid, et c'était au Bernabéu. Bon.
Exactement. En tout cas, écoutons-le, Nicolò Zaniolo, hier, après le match et surtout après son doublé.
Je suis extrêmement heureux depuis tout petit, je rêve de vivre un jour comme celui-ci. Cette victoire me ravit d'autant plus car c'est fondamental d'entamer un tel défi en gagnant le premier match. Maintenant on ira à Porto, convaincu de pouvoir passer le tour. On a joué le match comme on voulait le jouer, c'est-à-dire en essayant de toujours presser notre adversaire et repartir en contre. On devrait suivre la même stratégie au match retour. De toute façon, ce sera très dur, comme tout match de Ligue des Champions. Mais si on arrive à jouer comme on sait le faire, alors je suis sûr que nous allons nous qualifier.
Come sappiamo fare, passeremo.
Nicolò Zaniolo, c'est effectivement. Alors, souvent, on met peut-être trop de qualificatifs sur les jeunes joueurs, Naïm. Mais lui, c'est vrai qu'il arrive à la Roma, qu'il a jamais joué en professionnel et il débarque et il est déjà titulaire.
Ouais, il avait été champion de France d'Italie, avec les jeunes de l'Inter. Il avait été prêté.
On fait déjà la queue dans les magasins de l'Inter, de la Roma.
Mais il faut quand même dire quelque chose, c'est que Zaniolo a fait un très bon Euro des moins de 19 ans avec l'équipe d'Italie. Finaliste contre le Portugal, il marque un but, il fait 3 passes D, et c'est un peu comme le petit Moïskine de la Juve, il fait un peu partie de ces jeunes joueurs dont on mise beaucoup pour le renouveau du foot italien. Il a été à l'époque vendu par l'Inter parce qu'il fallait, pour 40 millions, il fallait vendre beaucoup pour essayer d'être dans les clous du fair play financier, donc il faisait partie d'une transaction comme ça. Évidemment, c'est un très beau joueur qui montre beaucoup de choses. Il est insouciant, il a tout ce que la jeunesse peut amener, comme un peu Mbappé il y a quelques temps. Il va vite, il est fort avec le ballon, il est un peu foufou, il tente des choses qu'on ne tente pas après quelques années d'expérience. Restons calmes quand même.
Oui, Karine. Effectivement, c'est pas un joueur qui débarque non plus. Il a fait toutes les sélections de jeunes et coach de la Roma qui aime les jeunes joueurs et qui a l'habitude de faire jouer les jeunes joueurs et de les lancer le voulait. Et quand il a su qu'il était dans le deal, il était ravi et Mancini le connaissait aussi. Ce qui est bien, c'est qu'en plus, et Matteo en parlait, il est quand même aussi couvé par Totti parce qu'il peut jouer dans le même registre que Totti. Il a forcément beaucoup d'attentes autour de lui, mais ils le font pas à pas, et pour l'instant, depuis ses débuts en septembre, il grandit sereinement, mais ça sert à rien de s'emballer effectivement, parce que il a une demi-saison au plus haut niveau.
Il faut attendre.
Et pour l'instant, il fait tout bien, mais il aura forcément des écueils, mais en tout cas, effectivement, techniquement, ce qu'il fait, c'est très propre, et il a une facilité pour jouer dans plusieurs registres, que ce soit bas, au milieu de terrain, sur un côté, ou en position de 10. C'est peut-être sa position préférentielle, je ne sais pas si Matteo le pense aussi. Mais voilà, il a cette capacité d'être utile à plusieurs postes sur le terrain, ou même de couvrir plusieurs postes dans un même match.
Bruno ?
Après, bah, faut souligner quand même la mauvaise gestion de l'Inter, surtout, quoi. Après, qui répète ce genre d'erreur, qui était sous le coup du fair play financier, qui aurait pu vendre Icardi, sans doute, aller 60, 70, 80 millions, parce que c'était le joueur avec qui ils auraient pu reconstruire une équipe. Ils ont fait le choix de le garder pour vendre la relève. C'est une erreur désastreuse pour moi. Et puis souligner aussi le recrutement de la Roma, on dit souvent la Juve qui est très forte pour avoir les bonnes pioches, des joueurs libres, etc. La Roma, c'est pas mal quand même, aller chercher Dzeko à City, qui rend des services, maintenant des petits jeunes, et qui remonte tous les 2-3 ans une équipe compétitive en Ligue des Champions.
Et la Roma qui est en train de faire une équipe, un renouveau 100% italien avec beaucoup de jeunes italiens. Ça rentre aussi.
Ça a toujours été leur marque. Hein.
Oui, mais là, beaucoup plus. Hier, il y avait 7 Italiens au coup d'envoi, et c'est vrai que dans ce que veut Mancini, c'est-à-dire des jeunes Italiens qui jouent de plus en plus pour reconstruire une nationale, la Roma joue un rôle très important.
Bon, on m'appelle dans le deal, il y avait aussi Davide Santon. Hein. Plus âgé, mais voilà.
Il n'y a pas Nainggolan aussi.
Il est dans un sens.
L'Inter a occupé Nainggolan. Ouais. On comprend les supporters.
Qui finiront en Chine, a priori.
Bon, Matteo, on reviendra vers vous alors pour le match retour, parce que ça va peut-être être compliqué la qualification.
Oui, je crois bien, même si Zaniolo est très positif, vous l'avez entendu. Vous savez que Zaniolo, c'est le joueur qui gagne le moins d'argent à la AS Roma, si on prend les 25 joueurs de l'équipe, 700 000 euros par saison.
Bon, ça va pas durer, c'est ça?
C'est le plus pauvre, entre guillemets.
C'est sa maman qui va négocier pour lui?
Bah, j'espère bien, comme ça on la verra avec quelques photos.
Matteo est sous le charme de la maman.
On l'est tous. Hein.
C'est pas ce que je préfère chez ce joueur. Concentrons-nous sur l'aspect sportif. Hein.
Merci beaucoup, Matteo, d'avoir été en direct. À très bientôt.
À très bientôt, au revoir.
Les deux matchs de la soirée, il nous reste 6 minutes, alors on va le faire très vite. 3-3 à Amsterdam, l'Ajax qui renoue enfin avec la phase finale de la compétition recevra bien les triples champions d'Europe en titre, des Merengues qui se récupèrent et reviennent très fort, normal hein, à cette époque de l'année, on a l'habitude. Et puis une équipe qui met en valeur et bien en face des joueurs des très jeunes hein. Il y a notamment 3 joueurs qui sont déjà des internationaux du côté de l'Ajax et notamment le fameux De Jong. Le Real aussi a un peu écarté les vieux grognards pour rajeunir. Bref, le Real est malgré tout favori selon vous le Real, à Amsterdam.
Oui, le Real est favori de par son statut, de par sa dynamique, son expérience. Il a quand même des joueurs extraordinaires. Quand on dit oui, il y a des jeunes joueurs qui sont remis. Ouais, Vinicius Junior, je pense que déjà à son âge, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui font ce qu'il fait. Vasquez est très bon.
Encore plus jeune que Zaniolo, hein, 18 ans.
Un très bon Benzema également. Donc oui, en plus la dynamique de l'Ajax n'est pas terrible en ce moment. Et puis moi j'ai un petit peu peur pour l'Ajax que on laisse tomber ce qui faisait le charme de cette équipe en phase de poule, c'est-à-dire un collectif bien huilé, des joueurs qui machin, pour se montrer individuellement, parce qu'en fait je pense que c'est l'équipe qui va vendre certainement le plus de joueurs l'été qui arrive, et j'ai un peu peur que certains aillent passer un entretien d'embauche plutôt que de se concentrer sur le match en lui-même.
Mais il y a quelque chose de cassé hein, à l'Ajax depuis quelques semaines, et notamment depuis l'annonce du départ de Jong à Barcelone. Ils sont en train de s'écrouler en championnat, ils ont perdu la tête.
C'est 6 points. Là.
C'est inquiétant. Ouais, c'est
6 points.
Ouais.
Mais malgré tout, ça sera sans doute un match intéressant. On lui suivra autre match, Tottenham, les Spurs, qui auront fort à faire contre le BVB. Les jaunes et noirs, l'équipe de Dortmund, emmenée par Lucien Favre. Alors eux aussi, en championnat, ils marquent un peu le pas. Alors que ceux de Pochettino, bon, eux, leur problème, peut-être, Karine, c'est qu'ils jouent sans Harry Kane, sans Dele Alli.
Mais c'est ça qui est un peu dur, c'est que des deux côtés, en fait, on a quand même des éléments ultra des importants. Absents. Qui manque. Alors moi, je vais le regarder ce match, mais j'aurais adoré le voir dans un mois ou il y a un mois, comme vous voulez, où on avait toutes les forces en présence.
Parce que du côté de Dortmund, de chaque côté.
Du côté de Dortmund, il y a énormément aussi d'absents. Alors oui, ils marquent le pas. Ils ont fait 3-0, 3-3 ce week-end, mais c'est dû aussi à ces absences qui sont évidemment très importantes.
Du coup, ça rééquilibre les débats, parce que c'est vrai que Tottenham sans Dele Alli et Kane, on se posait beaucoup de questions. Il y a Son qui est rentré plutôt de la Coupe d'Asie, qui leur fait beaucoup de bien.
Ouais. Comme Sakai du côté de Marseille. Hein,
et puis les absences. Effectivement à Dortmund, Reus, mais aussi Weigel, il y a aussi Alcacer. Ça fait beaucoup Pizek. Du côté de Dortmund.
Ils avaient beaucoup d'avance sur le Bayern et tout d'un coup, c'est un peu
Tottenham
fondu.
Est favori sur
après,
cette rencontre.
Après, ça va être à mon avis spectaculaire. Je pense qu'il peut y avoir beaucoup de buts parce que c'est deux équipes qui jouent vraiment, qui sont offensives et qui vont de l'avant avec deux entraîneurs fantastiques et un peu à la mode Lucien Favre à Dortmund et Mauricio Pochettino à Tottenham. Moi, c'est ce match-là qu'il faut regarder. Même avec les absences, il serait spectaculaire.
Moi, je peux être une petite pièce sur Dortmund.
Moi, sur Tottenham, parce que je pense que même s'ils ont Kane et Ali en moins, ce qu'ils arrivent à montrer depuis deux mois.
En championnat.
Ce qu'ils arrivent à montrer depuis deux mois. Et après, ils ont perdu Dembélé en plus.
C'est costaud.
Ils arrivent quand même avec Lucas, avec Sissoko, avec des joueurs qui n'ont pas spécialement beaucoup de temps de jeu au départ, à maintenir des résultats, à être encore dans la course au titre pour la première ligue. Donc moi, je pense que Tottenham a un petit avantage.
Karine, pourquoi une pièce sur Dortmund?
Parce que au niveau.
Parce qu'elle est jaune.
Non, pas du tout en plus. Non, parce que au niveau européen, l'expérience, elle est quand même plus de Dortmund. L'an dernier, moi, je veux bien qu'on m'explique 20 fois que Tottenham devait pas passer face à la Juve. Enfin, c'est la Juve qui est passée. Et Tottenham, des matchs références en Ligue des Champions, il y en a pas tant que ça.
C'est un club très jeune. Très,
bah
très
oui,
jeune,
c'est un club très jeune. C'est un club qui n'a pas gagné depuis longtemps.
Il
n'y
a pas énormément d'expérience non plus.
En Ligue des Champions. Oui, non, mais rien que le club Dortmund a plus d'expérience en Ligue des Champions. Donc moi, je mettrais quand même un petit avantage sur Dortmund sur les deux matchs.
Sur les deux matchs.
Bah oui,
on pensait que c'était ce soir.
Le moment, Karine,
Dortmund, je pense qu'ils vont passer.
C'est la fin de ce Radio Foot. Merci beaucoup. Et donc deux matchs ce soir à suivre sur les écrans de télé, mais pas sur RFI. Merci à David Finzel et merci à Julien Magouarou. À demain.